À voix nue, Camille Jusa, cette semaine avec...
Renzo Piano, architecte.
Épisode 5, et maintenant, que faire ? Renzo Piano, bonsoir. Souvent, vous dites aux gens qui disent que Beaubourg est un bâtiment très moderne que non, pas du tout. Il appartient plutôt au monde d'hier, le monde du pétrole, le monde de l'abondance, où on pouvait gaspiller les ressources. Ce soir, on va parler de ce que l'architecture va pouvoir faire dans le monde qui nous attend, hein, celui de la raréfaction des ressources, la fin du pétrole, justement, et d'un certain nombre de matières premières. Alors, je me suis rendu compte, en préparant ces émissions, que, par exemple, j'aimais beaucoup la pierre rose de la fondation Beyeler à Bâle, mais que cette pierre, en fait, elle venait de Patagonie. Puis je me suis rendu compte après que j'aimais beaucoup la pierre blanche du LACMA à Los Angeles et que cette pierre venait d'Italie. Alors, est-ce que c'est par là que vous allez commencer? C'est-à-dire arrêter de faire voyager les matériaux
Non. Peu à peu, c'est devenu clair. Avec un retard, donc, je me sens coupable. Puisque c'est vrai, dans les années 70, le grand thème, c'était pas ça. C'était pas la fragilité de la Terre. Personne se rendait compte de ça. Personne. Pas moi assez. Et je me sens légèrement coupable pour ça. Mais en réalité, il y avait d'autres priorités. Et après, le temps passe, et peu à peu, et il y a un moment dans lequel c'est le passage du siècle, pratiquement. C'est la fin des années 90, début des nouveaux siècles. Et c'était avec la California Academy of Science à San Francisco. C'est le musée des sciences naturelles de San Francisco, qui est d'ailleurs le premier bâtiment Platinum LEED. LEED, c'est la mesure de l'écologie d'un bâtiment. Et c'était bien, cette expérience. Puis c'était San Francisco, c'était la Californie, c'était un musée de la science naturelle, c'était normal. Et là, du coup, tout le monde s'est rendu compte, l'agence m'a compris, que la fragilité de la Terre, c'était un point absolument fondamental. Il fallait, par exemple, faire un bâtiment qui consomme très peu d'énergie, mais aussi peu d'eau, puisqu'on consomme beaucoup d'eau dans la Californie. Et San Francisco a des beaux-arts, mais c'est fait pour en prenant de l'eau dans la nappe phréatique. Et un jour ou l'autre, elle va s'arrêter. Et il y a tout ça. Et peu à peu, c'est devenu de plus en plus clair. Sur la pierre, il faut dire une chose. C'est drôle, hein. Mais la pierre, c'est la chose la plus facile à transporter. Ça coûte pratiquement rien. Pour la simple raison que c'est encore aujourd'hui utilisé comme ballast dans les paquebots. Oui, par exemple, si vous avez 6 mois de temps, vous trouvez toujours un paquebot qui doit revenir de l'Amérique du Sud vers l'Europe, il a les cales vides, il doit mettre du ballast au fond. Sinon, il manque de stabilité. C'est ce qu'on faisait d'ailleurs avec les clippers, on le faisait avant, dans le passé, on le fait encore aujourd'hui. C'est drôle, et c'est pour ça que transporter la pierre, finalement, c'est pas aussi cher que ça. Mais par contre, si on parle vraiment du fait qu'il y a une révolution, vous voyez, chaque siècle a eu des raisons pour lesquelles il y a eu des événements qui ont fait que l'architecture doit les suivre, doit les représenter, doit les construire. C'est pas l'architecture qui change le monde, évidemment, et non plus le journalisme, évidemment. Mais le journalisme peut raconter le monde. Et l'architecture aussi peut représenter le monde. C'est seulement le cas de Beaubourg, c'est aussi... Mais alors, si je cherche la chose qui va raconter le monde dans ce nouveau siècle, les années 2000, c'est la fragilité de la Terre. C'est ça. C'est évident. Tout le monde doit comprendre ça. Du coup, tout ce qu'on a fait depuis... Ça a commencé à travailler sur ce thème. Comment est-ce qu'on peut consommer moins d'énergie? Comment est-ce qu'on peut dialoguer avec la nature? Comment est-ce qu'on peut prendre l'énergie du soleil et à faire des bâtiments qui consomment très peu, même pas du tout d'énergie? Et ça, c'est la grande révolution.
Et ça, ça imprime tous vos projets aujourd'hui. Vous diriez que aujourd'hui, il n'y a pas un projet que vous faites qui ne soit pas dans cette idée-là, le bâtiment neutre.
C'est inévitable. C'est inévitable et c'est même beau. C'est pas du tout quelque chose dont il faut souffrir, qu'il faut voir comme une limitation. D'ailleurs, j'ai jamais cru que les limitations sont mauvaises pour la créativité. J'ai toujours plutôt pensé que la clarté des limites dans lesquelles on travaille, ça aide beaucoup à ne pas disperser les forces et viser un petit peu mieux à ce qu'on doit faire. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, de faire des bâtiments sages, des bâtiments qui dialoguent avec, qui parlent avec la nature, qui dialoguent, qui respirent, je dirais même, et pas seulement ils s'envolent, mais qui respirent, qui prennent l'énergie solaire. J'ai déjà construit des bâtiments qui ont des émissions zéro de CO2. Zéro. C'est pas qu'ils consomment peu, ils consomment rien. Par exemple, un hôpital en Ouganda, en Afrique, on peut dire, oui, mais l'Afrique est riche en soleil. Oui, bien sûr. Mais il fallait quand même le faire. C'est un bâtiment qui... Et pourtant, les hôpitaux demandent beaucoup d'énergie, mais c'est un bâtiment qui ne consomme pas d'énergie. L'énergie solaire suffit. Et dans ce moment, on est en train de construire en Grèce 3 hôpitaux avec la fondation Niarchos, qui sont des hôpitaux qui seront zéro émission et ils ne consomment pas d'énergie. Et ça, puisqu'on fait des panneaux solaires, mais du coup, tout ça, ce n'est pas vécu comme une obligation. Quelque chose qui empêche la créativité. C'est plutôt vu toujours comme une occasion de construire un alphabet, un langage, quelque chose que j'ai toujours aimé, puisque pour quelque raison qui m'échappe complètement, j'ai toujours aimé la légèreté plutôt que la pesanteur. Je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi c'est intelligent, ça. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt ça, puisque ça... Et évidemment, aujourd'hui, de faire des bâtiments qui s'envolent, ça permet, évidemment, de faire que la ville entre dans les bâtiments et tout ça, mais de faire des bâtiments qui attrapent l'énergie solaire et qui sont capables de vivre avec, mais c'est, évidemment, c'est très intéressant. Mais c'est aussi beau.
J'allais vous relancer là-dessus. Il y a un peu deux grandes familles d'architectes. Il y a ceux qui travaillent le béton, qui travaillent du lourd. On sait aujourd'hui que c'est effroyable le béton en termes de consommation de ressources. Et puis il y a ceux qui travaillent comme vous, plutôt l'acier, le verre. Et c'est cette architecture que vous aimez de montage. En fond, on peut aussi imaginer qu'un jour elle puisse être démontée. Alors c'est pas ce dont on parlait hier, c'est-à-dire des bâtiments qui durent 500 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée qu'à un moment, hop, on pourrait tout ranger?
En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on construit un bâtiment, il faut calculer l'énergie qu'on consomme, pas seulement pendant la vie du bâtiment, mais pour construire et pour démolir, pour faire disparaître le bâtiment. Or, quand vous construisez un bâtiment qui dure 500 ans, évidemment, c'est légèrement différent. Mais par exemple, le California Academy of Science à San Francisco, le musée des sciences naturelles, c'est un bâtiment dans lequel les 95% des matériaux s'est recyclé. C'est recyclé à partir de ce qu'on avait déjà sur place, puisqu'on a démoli des choses et on a récupéré l'acier, et etc. Et c'est aussi important de ne pas déplacer des camions jour et nuit ici-là, puisque alors, désormais c'est comme ça qu'on fait. C'est plus seulement question de consommation du bâtiment, c'est aussi l'énergie qu'il faut pour construire le bâtiment et après pour le démolir, pour le faire revenir à la nature. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des matériaux comme le bois qui sont beaucoup plus intéressants. Le béton, vous savez, il y a un problème avec le béton que j'adore bien, c'est un matériel génial. Mais tout le monde a toujours pensé que c'était éternel. Or, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Malheureusement, c'est pas le cas. Et en plus, ça demande énormément d'énergie pour être produit le béton. Le ciment, c'est quelque chose qui demande une énormité d'énergie pour être. Et, je sais pas, le pont de Gênes, c'était construit en béton. Il s'est écroulé puisqu'il n'y avait pas assez d'entretien. Bien sûr, c'est des coupables, c'est sûr. Mais il faut quand même faire attention. C'est un matériel qui est délicat. et qu'il n'y a rien d'éternel. Et d'ailleurs, il y a des pays dans le monde, le Japon c'est le plus important, avec lequel la notion de tenue dans le temps, de longévité du bâtiment n'est pas liée seulement à la matière, mais au fait qu'il y a tout un système d'entretien. Mmh. On refait. Il y a des temples qui ont 2000 ans, mais il n'y a pas une seule pièce qui a 2000 ans. Ils sont continuellement refaits. Ils sont continuellement repris. Alors, il y a ça aussi qu'il faut considérer. Enfin, c'est une façon complètement différente. C'est une philosophie complètement différente. Or, évidemment, si on parle d'architecture, on parle aussi d'expression, d'émotion. On parle de forme, évidemment. C'est évident. On parle d'espace. Mais si je ferme mes yeux, l'espace que j'aime construire, c'est des espaces qui sont faits de lumière, de transparence, des plans multiples dans lesquels on se sent partie de la communauté. Vous faites une bibliothèque dans laquelle vous êtes avec d'autres gens qui font des études et vous vous sentez mieux. Vous faites cette idée de lumière, de légèreté, ça va plutôt dans cette direction. Et l'idée même que on s'occupe en faisant un bâtiment, on s'occupe de pas seulement du bâtiment quand il est fini, mais combien de temps et combien d'énergie il faut pour le construire. Et après, qu'est-ce qui se passe? Quand il a fini sa vie, s'il termine sa vie, qu'est-ce qui se passe? Et ça devient quoi? Et tout ça, c'est une philosophie profonde et nouvelle. Et j'aime bien parler de ça, parce que les jeunes générations d'architectes, il faut qu'ils profitent de ça. Moi-même, à mon âge, mais l'agence ici, vous savez, c'est une agence jeune, hein, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de jeunes ici. Mais on parle de ça tout le temps, du matin au soir. Mais il faut se rendre compte que c'est une énorme opportunité. C'est une nécessité, bien sûr, mais c'est aussi une énorme occasion pour renouveler la poétique du bâtir.
Vous parliez de cet héritage, de comment on peut entretenir ces bâtiments. C'est vrai que le monde dans lequel vous avez grandi, hein, vous nous racontiez hier que vous étiez un enfant de l'après-guerre, c'est un monde dans lequel on a construit des milliers de logements, alors beaucoup en béton notamment, avec en plus cette espèce de rationalisme fonctionnaliste qui fait que ça a fait une ville pas forcément très aimable. Ensuite, dans les années 80, 90, on a construit, alors surtout en France, mais des centaines de milliers de maisons individuelles, des centres commerciaux, des routes, etc. Donc, on vit dans ce monde-là. C'est-à-dire à la fois ces centres anciens, ces périphéries avec des grands ensembles, puis après tous ces pavillons, ces rocades, etc., qui peut être une ville assez déprimante. Hein. Qu'est-ce que l'architecte peut faire de ce monde-là, de cet héritage-là des années 60-70, puis 80-90, vous êtes un arpenteur de ville, j'imagine, vous marchez tout le temps dans la ville. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous avez envie de faire sur cette ville?
Je crois qu'il faut accepter que la créativité peut être géniale aussi quand on construit sur le construit, sur ce qui est déjà construit. Je crois qu'il faut imaginer un énorme remaillage des périphéries urbaines. Et en italien, il y a un autre mot. Il s'appelle ramendo. Ramendo, c'est le remaillage. Et le remaillage, ce n'est pas seulement architectural, c'est aussi social, évidemment, économique. Mais j'ai une idée qui me suit depuis toujours. Je suis moi-même fils de périphérie. J'ai toujours aimé la périphérie. La périphérie, c'est des usines à désir. C'est le lieu dans lequel il y a beaucoup d'énergie. Bien sûr, quelquefois négative, quelquefois. Mais l'énergie positive est beaucoup plus importante, beaucoup plus importante. C'est une énorme énergie. D'ailleurs, même les gens qui habitent en périphérie, dans toutes les villes du monde, en tout cas, c'est peut-être 20% qui habitent dans le centre des villes. Mais la grande partie des gens, et c'est plutôt les jeunes d'ailleurs, ils habitent dans ce qu'on appelle périphérie. D'ailleurs, ça serait bien d'arrêter d'utiliser ce mot, puisque le mot périphérie est toujours utilisé, suivi par un adjectif négatif. Elles sont toujours lointaines, tristes, dangereuses et tout ça. Ce qui n'est pas vrai. Je trouve qu'il y a une grande beauté dans les périphéries. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les périphéries. J'aime beaucoup. Il y a une beauté humaine, sûrement, mais il y a aussi une beauté, il y a des espaces. il a de la lumière, il a des moyens. Vous voyez, c'est un thème que j'aime beaucoup, au point que quand j'étais fait sénateur en Italie, puisque c'était la Constitution italienne a prévu ça, il y a des sénateurs pour la vie. Eh bien, voilà, j'ai accepté volontiers. Et c'était d'ailleurs avec Claudio Abbado qu'on avait fait ça. Et lui, il a dit, moi, je vais enseigner la musique. Et moi, j'ai dit, bon, moi, j'aimerais bien travailler sur le périphérique. C'est pour ça que j'ai un joli bureau au Sénat italien à Rome. Et là, j'ai des jeunes qui viennent et que je paye avec mon salaire de sénateur. Et on fait des petits projets sur les périphéries urbaines. Et pourquoi des petits projets? Puisqu'on sait faire des petits projets, on les fait. On ne demande rien à personne, on les fait. Et les petits projets, à condition qu'ils contiennent des valeurs universelles, c'est génial. Et dans ces projets, qui sont justement des projets de remaillage, et c'est des projets qui ont à faire avec le petit. Ça ne suffit pas, bien sûr. Il ne faut pas se contenter pour les périphéries. Il faut beaucoup plus que ça. Il faut les infrastructures, il faut des services, il faut construire, et comme on a fait d'ailleurs ici à Paris, le tribunal, comme on construit maintenant le grand hôpital
Saint-Ouen,
là, on construit dans la ville, la ville métropolitaine, quoi. C'est ça qu'il faut, c'est pas la périphérie, c'est la ville métropolitaine. Et ça, je trouve que cette notion est profondément aussi, c'est une des grandes révolutions. Et j'ai quelque chose qui me tourne dans la tête depuis très très longtemps, depuis très longtemps. Vous savez, moi je suis homme de l'Europe, moi je suis européen, par nature, depuis toujours. Depuis que je suis parti de Milan, de Gênes, en 1965-6, après, je sais pas, moi, je parle l'italien, bien sûr, je parle le français, pas trop, trop bien, mais quand même, et l'anglais, c'est ma vie. Et j'ai une idée qui me tourne dans la tête. Vous voyez que l'Europe, c'est une énorme ville ouverte. C'est une merveilleuse ville, grande, ouverte, de 2000 kilomètres. Et c'est pas seulement mon idée, même la Bible dit que l'arrivée de l'humanité, c'est pas la campagne, c'est la ville. C'est la ville, c'est l'endroit dans lequel les gens sont ensemble et peuvent trouver la paix ensemble. Puisque dans une ville, vous savez, l'antipode de la ville, c'est pas la campagne qui est aussi fertile comme la ville, c'est le désert. Alors regardez l'Europe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Europe? Vous savez tout dans l'Europe. Vous avez des villes grandes, petites, des bourgs, vous avez des châteaux, vous avez des maisons, vous avez des champs cultivés, vous avez des montagnes, vous avez des lacs, des fleuves, des côtes. Vous avez tout ça, sauf le désert. Et c'est dans le désert que les monstres peuvent trouver place, sans qu'on s'aperçoive. Dans la ville, on les reconnaît. Et regardez le plan de la Terre. L'Europe, c'est aussi grand que l'espace qui est entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. C'est petit, mais c'est vraiment une ville. Et tout est là. Et en Europe, il n'y a pas un seul endroit dans lequel, avec une demi-heure de transport public bien fait, tu arrives partout. Tu as un hôpital, tu as une salle de concert, tu as un musée, tu as une école, tu as une université, tout ça.
Et ce remaillage dont vous parlez, là, quand vous dites « je travaille sur les périphéries », parce que vous dites « je ne fais pas d'urbanisme, je ne suis pas urbaniste, mais je veux mettre de l'urbanité partout, dans tous mes projets ». C'est quoi l'urbanité?
Oui, mais puisque j'aime beaucoup le mot « urbain ». Le mot « urbain », ce n'est pas seulement quelque chose qui appartient à la ville, c'est aussi une façon d'être. Une personne urbaine, c'est quelqu'un qui sait vivre avec les autres. L'urbanité, c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Et l'urbanité, dans ce sens, vous savez, cette vision des villes ouvertes, des villes dispersées, enfin, qui s'ouvrent et qui se connectent, s'interconnectent, c'est une vision dans laquelle la ville devient un petit peu plus campagne et la campagne devient un petit peu plus ville. Mais c'est quelque chose qui n'est pas aussi loin que ça. Et si on est capable de faire un système d'infrastructure par des métros, par des trains, bien sûr, c'est plutôt ça. Et si on est capable de faire un travail de remaillage à grande échelle. Et si on est capable de vivre dans cette vision, il faut arrêter de faire de nouvelles périphéries. Il faut arrêter. Les villes peuvent très bien se densifier. Le centre de ville peut se densifier. Un exemple, à Londres, on a fait le Chart, là, à Londres. C'est un bâtiment qui est habité par 12 000 personnes. Et il y a, vous savez combien de places de parking il y a? 42. C'est Ken Livingston. Ken Livingston était le maire de Londres. Il m'a dit, quand on a commencé le projet, Renzo, il ne faut pas mettre de voiture dans ce projet. Je veux que ce soit une tour dans laquelle, que ce soit comme une ville, une petite ville, qui ferme jamais, jour et nuit, elle est habitée, et dans laquelle il n'y a pas de voiture. Les gens se déplacent avec les moyens publics. D'ailleurs, la tour, c'est sur une gare, London Bridge Station, à Londres. Et d'ailleurs, là, il y a des trains, il y a 7 lignes de train, il y a 3 lignes de métro, il y a 22 lignes de bus et tout ça. Et cette idée de construire dans la ville, construire sur ce qui est déjà construit, pour densifier, mais pas dans le mauvais sens, parce qu'on peut très bien densifier sans s'occuper plus de terre. On peut parfaitement. On peut. Et ça permet de densifier sans rajouter du béton, en faisant respirer la terre, et surtout en évitant comme ça de rajouter à ce qu'on appelle des périphéries. Les périphéries, ce qu'on appelle aujourd'hui les périphéries, il faut qu'elles deviennent des villes. C'est la ville.
Et c'est vrai qu'il y a tout un tas de vos projets qui sont vraiment réécrire sur la ville comme ça, comme des palimpsestes. Je pense au Lingotto. Alors ça, c'est incroyable, cette usine automobile Fiat avec un circuit automobile sur le toit. Vous avez tout refait, c'est devenu une sorte de navire amiral où il se passe des tas de choses dedans. Je pense à, mais même la Morgan Library, la bibliothèque de livres anciens à New York, The Shard. Ça, c'est un travail qui vous amuse, c'est comme un travail d'orfèvre un peu, hein. C'est de la dentelle.
Oui, vous voyez, un architecte, il est toujours reconnaissant s'il y a quelque chose à laquelle on puisse se accrocher. Puisque dans le vide total, on a peur. Et c'est pas seulement l'architecte d'ailleurs, c'est aussi l'écrivain, c'est tout le monde. Tout le monde a peur de ça. Et quand vous avez des éléments, des repères, le moment dans lequel j'ai eu plus peur, c'est quand on a dû construire un bâtiment, l'aéroport d'Osaka, dans le rien, dans l'eau. Et pourtant, on a trouvé des choses. Quand vous avez quelque chose qui existe déjà et qui te donne un point d'accroche, c'est un terrain stable. D'abord, tu as quelque chose avec lequel tu peux parler. Je parle vraiment du bâtiment, du lieu. Et ensuite, ça te donne les proportions, ça te donne des repères. Enfin, tu t'accroches, quoi.
Ça veut dire que vous pensez toujours en premier à l'espace public, puis au bâtiment? C'est dans ce sens-là? C'est comment vous arrivez dans cet espace-là?
Mais oui, c'est inévitable, puisque j'ai une éducation qui est comme ça. Je viens d'une génération d'architectes qui ont grandi avec les premières occupations universitaires. Et le but de l'architecte était de changer le monde. Et c'est fou, je comprends. Mais cette notion, y compris celle un petit peu délicate, évidemment, de considérer la beauté primaire, naturellement, comme un instrument essentiel. Alors, Dostoïevski avait écrit, avec le prince de l'idiot de Dostoïevski, il disait, la beauté va changer le monde. Bien sûr, c'était une beauté primaire, celle dont il parlait. Mais cette idée que la beauté profonde, celle qui appartient vraiment à la nature humaine et qui rend les gens meilleurs, puisse changer le monde, une personne à la fois.
Vous dites ça, vous disiez hier que vous étiez optimiste et qu'il fallait l'être quand on était architecte. Mais il se trouve que le plus grand chantier urbain d'Europe, il se déroule en ce moment même autour de Paris, c'est le Grand Paris Express, cet énorme métro, hein, justement, qui est plutôt une très bonne nouvelle, hein, relier les banlieues entre elles, 68 gares, mais aussi 100 nouveaux quartiers qui sont quand même pour la plupart confiés à la promotion privée. Alors à la fois il y a de l'optimisme dans ce projet parce que ça va circuler, et en même temps on voit bien que le monde est organisé actuellement entre vous, les architectes, enfin cette élite qui fait des choses magnifiques, et puis tous les logements là qu'on va fournir, etc., partout, il y a une centaine de projets, c'est la promotion privée. Est-ce que on n'aurait pas intérêt à revenir dans des choses un peu plus équilibrées? Pourquoi c'est pas vous, Renzo Piano, qui allez faire ces bâtiments en banlieue, là, tous ces nouveaux quartiers?
Moi, j'aime bien. Je m'enfuis pas si on me propose des choses. Vous savez, on fait des grands projets, on fait des petits projets. C'est inévitable. On fait des gouttes quelquefois. Mais si les gouttes sont puissantes et possèdent des valeurs, alors là, ça peut changer les choses. Évidemment, ce que vous dites, ça me rappelle une chose que j'ai bien dans la tête, c'est que c'est un métier noble, l'architecte. C'est pas du tout un métier pour répondre à mon père qui me posait la question, mais pourquoi? Voilà pourquoi. Puisque c'est un métier génial, fantastique. C'est un métier très noble. Mais c'est une mission. Et il faudrait être très nombreux. Et c'est aussi un métier dans lequel on travaille dans la police. La ville, la police. Et police, c'est la politique. Il y a un serment que j'ai toujours aimé beaucoup dans l'histoire ancienne de la Grèce. C'est le nouveau élu en Grèce, à Athènes. Il faisait un serment très court, homme politique, hein, de la police. Je vous promets, Athéniens, de vous rendre Athènes plus belle que vous m'avez donnée. Finito, finito. Tout était là. Mais bien sûr, ce beau-là, c'était le beau grec, kalos. Et le kalos, c'est plus que beau. C'est bon, c'est bon. Alors j'aimerais bien avoir le miracle de pouvoir tout faire.
Merci beaucoup Renzo Piano pour cette série d'émissions. C'est toujours bien d'aller voir les bâtiments, de marcher autour, de rentrer dedans. Si on est en France, on peut voir donc Beaubourg, le tribunal de grande instance à Paris aussi, l'hôpital de Saint-Ouen bientôt, l'ENS de Paris-Saclay. Il y a aussi un très très joli projet rue de Meaux dans le 19e, il faut aller voir ça, ou la Cité internationale à Lyon. Et puis, si on peut voyager, il y a beaucoup de choses à voir partout dans le monde. Merci beaucoup.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Renzo Piano. Merci à Boris Amzeyan, Alia Bengana, Françoise Fromono et Thomas Félizon. Chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Yann Fressy, réalisation Nathalie Salle, une série de Camille Jusa, disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.